22h sur France Culture et le journal, c'est avec Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Les démocrates lancent la procédure de destitution de Donald Trump, le président américain accusé d'avoir incité à la violence ses partisans qui ont envahi le Capitole. Donald Trump désormais banni des réseaux sociaux. Dossier dans ce journal avec Franck Mathevon à Washington et le commentaire de notre invité, l'universitaire Romain Badoire, spécialiste des réseaux sociaux. Jean Castex exclut pour l'instant un troisième confinement pour la France. Le Premier ministre a tenté de rassurer les présidents des groupes parlementaires malgré une situation sanitaire très inquiétante. Un gymnase universitaire incendié à Nantes. Le bâtiment devait accueillir des examens en présentiel demain. La piste criminelle ne fait guère de doute. À 9 jours maintenant de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les démocrates espèrent toujours destituer Donald Trump. Ils ont déposé aujourd'hui un acte d'accusation contre le président sortant à la Chambre des représentants. C'est la première étape vers l'ouverture formelle d'une procédure en destitution. Une première tentative d'impeachment avait échoué en février 2020, mais cette fois, le rôle de Donald Trump dans l'invasion du Capitole a changé la donne. Franck Mathevon nous appelle de Washington.
C'est un texte de 4 pages qui détaille les raisons pour lesquelles Donald Trump doit être destitué. Le président est accusé d'avoir délibérément incité à la violence contre le gouvernement des États-Unis lors de la journée de mercredi. D'après le document, Donald Trump a une fois de plus contesté les résultats de l'élection devant ses supporters et il a incité la foule à commettre des actes violents au Capitole. Il a en résumé mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions. Cet acte d'accusation a donc été présenté, mais dans un premier temps, la Chambre a demandé aujourd'hui au vice-président Mike Pence d'activer le 25e amendement qui permet de déclarer un président inapte. On entend ici le greffier lire cette résolution qui sera votée demain. Elle a très peu de chances d'aboutir. Mike Pence ne donnera pas suite. La Chambre pourra donc lancer la procédure de destitution. Le vote devrait avoir lieu mercredi.
Voilà, Franck Mathevon, envoyé spécial aux États-Unis. Alors, depuis les événements du Capitole, Donald Trump a quasiment disparu des réseaux sociaux. Twitter, Facebook et Instagram, pour ne citer que les principaux, ont banni le président américain. L'argument est a priori imparable. Trump est accusé d'utiliser ces réseaux pour inciter ses partisans à la violence. On en parle avec l'invité de ce journal, Romain Badoire, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 2. Bonsoir.
Bonsoir.
Romain Badoire, est-ce bien le rôle d'un réseau social d'imposer ses propres critères pour bannir un utilisateur ?
Alors, ça, c'est vraiment la grande question. C'est-à-dire que les plateformes de réseaux sociaux sont à la fois des entreprises privées, des espaces privés, qui décident de leurs conditions d'utilisation. Donc, elles ont le droit de bannir des utilisateurs qui ne respecteraient pas leurs règles de fonctionnement. Mais dans le même temps, elles sont devenues les arènes du débat public dans les grandes démocraties. Et à ce titre, elles ont une responsabilité qui dépasse leurs seules conditions d'entreprise privée. Et donc, effectivement, ça pose des questions en termes de liberté d'expression, en termes de démocratie, de voir des entreprises privées être capables de censurer le président des États-Unis.
Ces entreprises privées répondent à un cahier des charges spécifique ?
Alors, elles répondent à un cahier des charges spécifiques. Disons qu'elles ont des standards de publication dans lesquels elles interdisent les discours de haine, l'appel à la violence et d'autres formes de publication problématiques. Généralement, par rapport aux personnalités politiques, elles vont adopter différents types de points de vue, c'est-à-dire que certaines plateformes considèrent que les personnalités politiques doivent être modérées au même titre que n'importe quelle autres utilisateurs et d'autres plateformes qui vont considérer que les personnalités politiques, de par leur importance dans le débat public, ne doivent pas faire l'objet des mêmes types de modération et elles doivent être laissées davantage libres de leur parole.
Est-ce qu'on peut considérer qu'aux États-Unis, il y a eu une pression du pouvoir politique, en l'occurrence du camp démocrate, pour que les réseaux sociaux agissent contre Donald Trump ?
Alors cette pression, elle existe depuis longtemps et on peut d'ailleurs s'étonner que les plateformes agissent si tard par rapport à Donald Trump qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Et d'ailleurs, plusieurs observateurs ont moqué un peu cette arrivée tardive de la suppression de ces comptes. Je ne pense pas, moi, qu'il y ait une pression du camp démocrate en particulier. Il y a une pression de la société civile, des médias, de diverses personnalités sur les réseaux pour les pousser à modérer davantage les contenus. Là, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, l'invasion du Capitole, on a quand même passé un cap, on a passé une étape en termes de violence politique dans le débat américain. Et cette étape a sûrement joué comme un révélateur aussi pour ces plateformes qui ont décidé de passer à l'action.
Romain Badoir, le réseau social Parler, prisé des conservateurs, est lui aussi inaccessible après la décision d'Amazon de lui interdire l'accès à ses serveurs. N'y a-t-il pas là une atteinte à la liberté d'expression, quoi que l'on pense de ce réseau Parler ?
Ce que montre le cas de Parler, c'est vraiment le pouvoir déterminant qu'ont aujourd'hui les grandes plateformes sur le fonctionnement de la démocratie et sur l'exercice de la liberté d'expression. Parce que là, ce que décide Amazon ou Apple, c'est de couper l'accès à un espace de débat. Ceci étant dit, on peut aussi voir le problème sous un autre angle, qui est de dire que, étant donné le niveau de violence dans le débat public aujourd'hui, il paraît difficilement acceptable de proposer une application ou un espace de débat qui ne soit pas un minimum modéré. Et donc, à ce titre, on peut aussi considérer, et c'est le cas notamment de l'Europe aujourd'hui avec le Digital Service Act, que des entreprises qui proposent des espaces de débat doivent garantir un minimum de modération. Parce qu'on parle beaucoup de Parler dans l'actualité, donc on peut imaginer que de nombreux citoyens et citoyennes américains vont se tourner vers ce type d'espace de débat. Et donc, la décision des plateformes ici, elle est vraiment de couper ces réseaux extrémistes, complotistes, d'une audience plus grande et de leur permettre de prospérer, comme ça a été le cas auparavant avec les grandes plateformes comme YouTube, comme Facebook, qui ont permis à un certain nombre de réseaux de prospérer.
Romain Badoir, est-ce que l'on peut dire que d'une façon générale, les États nationaux sont désormais impuissants à imposer leur législation aux réseaux sociaux ?
Non, c'est plutôt l'inverse en fait. Quand on regarde l'histoire des réseaux sociaux, on se rend compte que la séquence historique qui s'est ouverte depuis la première élection de Donald Trump en 2016 va plutôt dans le sens d'un renforcement du pouvoir étatique sur les réseaux, qui arrive à imposer de nouvelles règles de fonctionnement, notamment de leur imposer des réformes pour aller vers davantage de modération. On voit aussi que il y a des nouvelles mesures qui sont prises en termes de respect de la concurrence. Et donc, non, depuis 3-4 ans, au contraire, les États reviennent en force sur le dossier de la régulation des plateformes.
Et on peut même dire que les plateformes parfois devancent la volonté des États qui veulent justement limiter ces discours extrémistes.
Oui, tout à fait. Elles les devancent parce que les plateformes ont compris aussi qu'elles avaient beaucoup à perdre à laisser prospérer ce type de réseau et ce type de contenus, que ce soit des contenus complotistes, haineux, etc. Parce que les médias se saisissent de ces questions, les citoyens, les citoyennes se saisissent de ces questions, et donc elles souffrent d'un déficit d'image à ne pas modérer assez les contenus. Et donc l'arbitrage, c'est de savoir, est-ce qu'elles modèrent davantage au risque de perdre une partie de leur audience, qui sera l'audience qui sera peut-être le plus touchée par ces contenus extrémistes, complotistes, etc. Ou est-ce que, en décidant de ne pas modérer, elles ne vont pas perdre une autre partie de leur audience, du camp d'en face, qui lui souhaite un débat un peu plus rationnel et un peu plus pacifié.
Romain Badoir, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier ouvrage, Les nouvelles lois du web, paru en octobre dernier aux éditions du Seuil. À propos de Parler, le réseau social conservateur a porté plainte contre Amazon, qui lui a coupé l'accès à ses serveurs. Résultat, Parler a disparu d'Internet. Ses dirigeants accusent Amazon d'avoir pris une décision politique. Ils estiment aussi que cette décision traduit la volonté de réduire la concurrence au bénéfice de Twitter. La situation sanitaire reste préoccupante ce soir en France. Le chiffre des hospitalisations a augmenté dans les dernières 24 heures avec près de 25 000 patients Covid, dont environ 2700 en réanimation. Le nombre de décès a franchi aujourd'hui la barre des 68 000 morts depuis le début de l'épidémie. Mais à ce stade, le gouvernement exclut un troisième confinement. Le Premier ministre Jean Castex l'a dit au président de groupe parlementaire Stéphane Robert.
À ce stade, le couvre-feu suffit, a dit Jean Castex au patron de groupes parlementaires réunis en visioconférence. Le Premier ministre leur a expliqué qu'il allait privilégier de nouvelles extensions du couvre-feu à partir de 18h, si nécessaire en fonction des départements, mais que pour le moment, son souhait était d'éviter, autant que faire se peut, d'imposer aux Français un troisième confinement. Et surtout, a-t-il ajouté, il veut à tout prix éviter de confiner les enfants et de fermer les écoles. Je l'ai tout de même senti très inquiet, avoue un participant à la réunion. On voyait qu'il essayait de nous rassurer, ajoute-t-il, mais il avait du mal à dissimuler son inquiétude. Et ce que craint le chef du gouvernement, ce sont deux choses. Premièrement, les effets d'un brassage de la population à l'occasion du Nouvel An. Les fêtes organisées, même en petit comité, vont-elles donner un coup de fouet à l'épidémie ? On le saura dans les jours à venir. Et puis deuxième crainte, c'est la diffusion du virus mutant apparu au Royaume-Uni. Plus contagieux, moins détectable, ce mutant laisse pour le moment l'exécutif dans le brouillard. C'est la raison pour laquelle Jean Castex a exprimé ce matin son souhait de ne pas reconfiner, tout en n'excluant pas cette hypothèse. En tout dernier recours, a-t-il précisé. Un nouveau conseil de défense se tiendra mercredi à l'Élysée pour examiner la situation et d'éventuelles annonces pourraient intervenir à l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé, jeudi, en début de soirée.
Stéphane Robert, merci. Cette crise sanitaire perturbe les examens dans les universités. Si certaines épreuves sont maintenues en présentiel, cela suscite parfois des réactions extrêmes. Exemple à Nantes, un gymnase qui devait accueillir des examens a été incendié la nuit dernière. La piste criminelle ne fait guère de doute. Il y avait des tags revendicatifs sur les murs comme examen sous Covid ou bien foutage de gueule. Les précisions de Julie Munch.
Un trou béant de plusieurs mètres, cerclé de noir, noir de suie. Charlotte Sion est la vice-présidente d'Interasso Nantes. Elle a les yeux rivés sur la façade du gymnase en partie fondue.
Là, il y a quand même un palier qui est passé. À titre personnel, je suis quand même assez choquée de voir l'ampleur des dégâts aussi du bâtiment.
À l'intérieur, plusieurs centaines de tables prêtes pour les examens. Certaines sont parsemées de poussière, mais dehors, ce qui frappe surtout, c'est ce slogan en lettres noires sur mur rouge. Partiel, en distanciel ou pas de partiel du tout. Pour Charlotte Sion, le message est clair.
Ça représente globalement la colère de toute une génération, une profonde détresse des étudiants. Faut pas que ça se reproduise.
Mais pour ça, selon cette étudiante infirmière, il faut que les étudiants soient davantage écoutés parce que si cet incendie est le fait d'une minorité, la colère, elle, est bien présente sur le campus.
C'est que si on n'arrive pas à faire du présentiel en assurant la sécurité des uns et des autres, dans ce cas-là, il faut rester en distanciel.
Pour autant, la présidente de l'université de Nantes n'envisage pas pour l'instant de supprimer les examens en présentiel. Ils auront bien lieu cette semaine dans d'autres bâtiments désormais surveillés par des vigiles 24 heures sur 24.
Julie Munch de France Bleu Loire-Océan. Le journal L'Équipe est en partie paralysé par la grève. 80% des salariés étaient grévistes ce week-end et le mouvement a été reconduit pour 24 heures aujourd'hui. Conséquence, le quotidien sportif est absent des kiosques depuis samedi et le site internet fonctionne au ralenti. Les salariés en grève conteste le plan d'économie de la direction qui veut supprimer une quarantaine de postes, environ 10% des effectifs du groupe L'Équipe qui comprend aussi France Football et Vélomag. Le propriétaire, le groupe Amaury, est soupçonné par les syndicats de profiter de la crise sanitaire pour accélérer le passage au numérique. Maxime Tellier.
Les salariés s'opposent à deux plans sociaux qui sont la conséquence de l'arrêt du magazine Sport et Style d'abord et du passage de l'hebdomadaire France Football à une version mensuelle. Mais la crise couve depuis l'été dernier dans le groupe. À la sortie du premier confinement, les syndicats ont d'abord refusé un plan de réduction des salaires et d'augmentation du temps de travail en échange d'une promesse de non-suppression de postes. Mais cette fois-ci, la direction revient à la charge en supprimant des postes. Béatrice Avignon est élue du SNJ, le syndicat national des journalistes à L'Équipe.
On n'est pas non plus complètement naïf. On sait très bien que la presse n'est pas en très bon état, qu'il y a des problèmes de points de vente, que la distribution n'est pas au mieux. Et on sait que le numérique est de plus en plus important. Ce qu'on conteste, en fait, c'est que tout ne va pas si mal, aussi mal que ce qui a été dit après le Covid. Et ensuite, c'est pas en réduisant les effectifs et en suivant de moins en moins de sports, de moins en moins de compétitions, même le foot, ils veulent tailler dans ce qu'on suit en football. On a l'impression que là, on est en train de se tirer une balle dans le pied. En fait, au final, on voit pas comment on va pouvoir gagner des abonnés et intéresser les lecteurs en faisant ça.
Et les syndicats affirment que le groupe Amaury a les moyens d'absorber le choc économique de la crise sanitaire. Ils citent les dividendes distribués aux actionnaires en 2020, 11 millions d'euros. Mais le propriétaire estime que le Covid accélère une tendance de fond, le passage de l'imprimé au numérique avec une baisse surtout des recettes publicitaires. Un point de vue comptable inaudible pour des salariés qui en sont à leur 8e plan social en 8 ans. Ils veulent un plan d'avenir et pas un énième plan d'économie.
Maxime Tellier, merci. Un mot du temps demain qui sera perturbé. De la neige à basse altitude à l'est et de la pluie sur la moitié ouest. Au sud, le soleil s'imposera sur le pourtour méditerranéen. Les températures minimales restent hivernales de moins 5 à 6 degrés selon les régions. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 2 et 11 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.